Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, dans votre débat, nous parlerons de la contrebande, de la contrefaçon qui coûte cher à l'économie camerounaise, avec nos invités qui seront en ligne de Douala et de Yaoundé au Cameroun.
La carte blanche, Africa Radio.
Et notre invité ce soir est en direct de Libreville, Laurence Ndong, bonsoir.
Bonsoir, je suis plutôt en direct de Paris.
De Paris, ah d'accord, je ne l'avais pas remarqué, Madame Laurence Ndong. Vous êtes donc enseignante, auteure gabonaise, consultante en sciences de l'éducation et présidente du mouvement Debout Peuple Libre. Votre premier sujet, c'est la gestion de la pandémie de Covid-19 dans votre pays, le Gabon. Globalement satisfaite par les mesures prises jusque-là par les autorités pour contenir la progression de la pandémie?
Les populations gabonaises se plaignent de la gestion de la COVID, de la crise de la COVID-19 au Gabon, et pas que les populations, les médecins également. Le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais a publié un communiqué le mercredi 3 février 2021 dans lequel ils se plaignent de l'abandon par les services, par le gouvernement. Ils ont enregistré le décès de 4 médecins en une semaine. Ils se plaignent du fait que le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui devait être l'hôpital de référence pour les traitements de COVID, est devenu, selon leurs propres termes, la vitrine de l'agonie du système de santé gabonais. Il y a des coupures permanentes de dioxygène quand on sait que les malades qui font la forme grave de COVID ont besoin de dioxygène. Seuls 3 modules sur les 8 nécessaires sont fonctionnels. Et quant aux populations, elles se plaignent des mesures qui sont uniquement sécuritaires et pas du tout sanitaires. Il y a ce couvre-feu qui a été renforcé, qui est maintenant à partir de 18h depuis le 13 février dernier. Et donc, les populations ont manifesté par ce qu'ils ont appelé la révolution des casseroles depuis le 17 février. Donc, ils frappaient dans les casseroles tous les soirs de 20h à 20h05. Et malheureusement, cette révolution des casseroles a été réprimée le 18 février par les forces du régime gabonais. Et on a enregistré 2 décès par balle tirés par la police. Donc, le jeune Jenki Eman, qui est étudiant à l'université Omar Bongo en géographie, qui a reçu une balle dans la tête, et M. Gildas Iloko, qui était un père de famille, qui a reçu une balle dans le dos.
D'accord. Pour revenir à l'état du CHU principal, centre de prise en charge de COVID, aux revendications des syndicalistes qui parlaient de la vétusté du plateau technique aussi, la directrice générale de cet établissement, Marie-Thérèse Van, a affirmé que ce centre hospitalier reste efficient. Et elle a affirmé aussi que s'il y a un choix à faire entre la disponibilité de l'oxygène et le paiement des primes, eh bien on préférerait acheter l'oxygène plutôt que de payer les primes, que dénoncent aussi les syndicalistes.
Alors là, il y a un mélange de genres, parce que elle confond le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'hôpital. L'hôpital a un budget de fonctionnement et il y a un budget d'investissement. Ce qui concerne l'oxygène, c'est le budget d'investissement. Il y a un budget de fonctionnement qui prend en compte les primes du personnel. Et depuis le début de la crise de la COVID-19, il y a énormément d'argent qui a été mobilisé. Les fonctionnaires ne se plaignent pas depuis hier, c'est depuis un an. Ils ont rappelé dans leur communiqué qu'entre avril et juillet 2020, ils ont eu des échanges avec le ministère de la Santé pour poser les problèmes qu'ils posent encore aujourd'hui en mars 2021 et que depuis lors, rien n'a été fait. Et
donc, merci.
C'est vouloir jeter l'anathème sur les médecins, vouloir faire croire qu'ils préfèrent les primes à l'oxygène. Il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Nous avons suffisamment de moyens pour payer l'oxygène et les médecins.
Deuxième sujet, madame, l'enlèvement au Nigeria des enfants dans le nord-est du pays, heureusement libérés cette semaine. Vous souhaitez également prononcer sur ce sujet?
Oui, parce que évidemment, on ne peut pas rester insensible à l'enlèvement de 300 enfants. Que
279 plus exactement.
279 exactement. Ce n'est pas la première fois que ça se produit au Nigeria. En 2014, on avait déjà vu l'enlèvement de 200 jeunes filles dont toutes n'ont pas été malheureusement retrouvées. Donc ces actes sont extrêmement regrettables et inconcevables. Alors, ces enlèvements récurrents s'étendent dans tous les pays voisins et ils sont très graves. Et je pense que ces actes méritent une mobilisation des forces militaires au Sahel et que l'Union africaine et la communauté internationale viennent en aide aux Nigériens qui semblent ne pas pouvoir contenir ces djihadistes qui opèrent ces enlèvements. L'armée militaire nigériane est quand même la première en Afrique. Comment n'arrive-t-elle pas à sécuriser ces populations? Et ça pose le problème des armées africaines qui, semble-t-il, sont plus promptes à réprimer les populations qu'à les protéger. Donc que la communauté internationale, que les forces qui sont au nord du Mali s'étendent au nord du Nigeria pour protéger les populations parce qu'elles en ont besoin.
Merci madame. En deux mots, le lundi prochain, on anticipe un peu, c'est la journée internationale des droits de femmes. Comment appréciez-vous la place des femmes sur la scène politique au Gabon?
La place des femmes dans la scène politique au Gabon, on pourrait dire qu'aujourd'hui au Gabon, il y a un premier ministre qui est une femme, la présidente du Sénat est une femme, mais en réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'aujourd'hui au Gabon, on a encore moins de 30% des femmes au poste de prise de décision, et souvent, lorsqu'elles sont mises en avant, c'est toujours parce que, la plupart du temps, elles servent plus un régime que servir les populations. Donc il y a beaucoup à faire dans le renforcement des capacités des femmes, sur notamment le maintien des jeunes filles à l'école. C'est tellement long de pouvoir en parler en quelques minutes, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes aient leur plein potentiel manifesté en politique.
Laurence Ndon, merci beaucoup, enseignante, auteure gabonaise et présidente du mouvement Debout Peuple Libre. Vous étiez en direct dans cette émission de Paris. Notre émission ce soir, nous parlerons de la contrebande et de la contrefaçon au Cameroun. Ces dernières semaines, plusieurs opérations ont été menées par les autorités du ministère du Commerce. Des usines de fabrication de produits contrefaits ont été démantelées dans la capitale économique, mais aussi ailleurs, et où nous retrouvons d'ailleurs nos invités qui participent à ce débat. Delor Magellan Kams Kamgen, bonsoir. Il n'est pas encore avec nous, président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs. Il sera en ligne de Douala, la capitale économique. Et nous avons également Jean-Marie Mbianda. Bonsoir, monsieur Mbianda.
Madame Liliane Yatcha, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Mbianda.
Bonsoir à vos millions d'auditeurs.
Merci beaucoup d'être... Merci beaucoup d'être en direct avec nous de Douala. Vous êtes économiste spécialiste en accompagnement des PME et expert certifié au NUDI en diagnostic et mise à niveau des industries à Douala, donc au Cameroun. Jean-Bruno Tagne, bonsoir.
Bonsoir Liliane.
Journaliste et directeur général adjoint du média en ligne Naya TV. Vous êtes à Yaoundé, la capitale économique, la capitale politique, que dis-je, du Cameroun. Et nous allons commencer notre débat avec vous, monsieur Mbianda, qui est économiste. Est-ce que tout d'abord, on peut avoir votre diagnostic de ce fléau au Cameroun, cette contrefaçon, cette contrebande? Quelles en sont les causes?
Alors, la contrefaçon, c'est le fait de vous mettre à proposer à la vente sur un marché un produit dont vous n'en êtes ni le concepteur, ni celui qui a bénéficié d'un contrat de franchise pour sa vente. Et la contrebande, c'est le fait de prendre même un produit qui est normal, qui est régulier, qui n'a aucun problème, de franchir le cordon douanier d'un État sans passer par les canaux indiqués. Pour franchir, pour entrer dans l'espace économique d'un État avec un produit, par exemple, régulier, vous devez passer par la douane et vous acquitter les droits de douane. Donc, si vous le faites autrement, vous êtes là en plein dans la contrebande. Par contre, si vous êtes sur l'espace économique de ce pays et puis vous proposez des produits, je prends un exemple sans publicité, le ruinard, dont vous n'en êtes ni le fabricant, ni l'importateur agréé, et vous n'êtes plus en train de faire usage de votre contrat de franchise que vous avez signé avec la maison mère, vous êtes en plein dans la contrefaçon. Nous l'avons vu ici avec un produit comme les allumettes, ça s'appelait une alors, c'est sans publicité toujours. Des gens avaient pris sur eux de constater que les allumettes qu'ils avaient fait venir de l'Inde, ils ne parvenaient pas à les couler sur le marché camerounais. Et ils se sont donc arrangés à fabriquer dans leur une alors et de mettre deux N dessus, Union Nationale Allumetière du Cameroun. Et cela a donc fait l'objet d'une contrefaçon. Donc la contrefaçon telle que je viens de la décrire vous amène donc à comprendre pourquoi est-ce que certains opérateurs économiques peuvent s'y livrer dans l'espoir non seulement de détourner les impôts droits et taxes qu'il faut payer aux concepteurs, qu'il faut payer à l'État, qu'il faut payer également à toutes les autres, à tous les autres organismes de protection.
En tout état de cause, il y a fraude. On vient à la conclusion qu'il y a, manifestement de la fraude, qu'on soit dans la contrefaçon ou la contrebande.
Tout à fait. Il y a fraude et le contrefacteur maintenant fait subir au créateur du produit, au créateur de la marque, au créateur du modèle, vraiment un enjeu financier énorme. Alors que le contrebandier, lui, par contre, son acte fait peser énormément et malheureusement négativement sur les caisses de l'État. Les droits qu'il faut payer, l'État ne les perçoit pas. Je vous prends un exemple. Lorsque vous faites venir l'État au lendemain de la crise de ce qu'on appelait la crise de la fin de 2008, l'État défiscalise donc l'entrée sur son territoire du poisson, du riz. Donc cela vous donne la possibilité d'importer de l'étranger et vous rentrez ici. Mais depuis pratiquement 2 ans, l'État a refiscalisé le riz. Donc si vous faites entrer le riz ici par la contrebande, vous ne permettez pas à l'État de gagner un radis là-dessus. Le sucre, le Cameroun consomme à peu près 350 000 tonnes. Localement, on ne produit pas plus de 200 000. Donc il est obligé d'importer entre 140 000 et 180 000 chaque année. Il y a une partie, un pays voisin, le Nigeria, pour ne pas le nommer, vous pouvez passer par le nord du Nigeria pour inonder le marché du Cameroun en sucre. Et là, c'est un produit de contrebande. Et l'État a d'ailleurs mis sur pied ce qu'il a appelé l'opération Alcomi, halte au commerce illicite, pour pouvoir freiner donc.
On va parler tout à l'heure, M. Mbianda, de l'efficacité de ce dispositif justement qui a été mis en place, vous le disiez. Mais avant de passer la parole à Jean-Bruno Tagné, dites-nous très brièvement, la question était, qu'est-ce qui explique ce que certains qualifient d'ailleurs d'explosion du phénomène? Quelles en sont les causes?
Bon, les causes, commençons d'abord par la sous-culture des consommateurs, c'est-à-dire le consommateur, s'il ne sait pas différencier le vrai du faux, si le consommateur ne sait pas différencier la fausse monnaie de la bonne monnaie, il aura tendance à assimiler les deux et à leur donner la même valeur à tort. Quand le consommateur débarque sur le marché, il a besoin du riz, il ne peut pas faire la différence entre un riz jasmin et un riz sur lequel on a écrit simplement jasmin et qui est rentré au pays. Il a besoin d'une paire de chaussures sans publicité Adidas, et alors qu'en face, on a mis Adidas avec 2D. S'il ne peut pas faire cette différence, il aura tendance à y aller. Et enfin, les opérateurs qui se livrent à ce pratique-là également, je vais commencer par le dire, c'est l'avidité. L'avidité peut les pousser vers là, un amour effréné vers de l'argent. Et enfin, ceci peut aussi être justifié par le fait que nos entreprises, et là, c'est l'expert en diagnostic mis à niveau des entreprises qui vous parle, nos entreprises étant très faibles, et incapable de compétir avec des entreprises internationales, leur seul sort, c'est de disparaître. Or, lorsqu'elles ne veulent donc pas disparaître, elles peuvent être tentées à se livrer à ce genre de pratiques.
Merci.
Tout simplement parce qu'en fait, disparaître n'aurait pas de sens. Et bien entendu, elles se battent donc à travers ces petites formules qui ne leur profitent non plus.
Merci, M. Mbianda. Jean-Bruno Tagné, je vous pose la question peut-être d'abord en tant que consommateur. M. Mbianda parlait, entre autres, des causes en évoquant le fait qu'il y a parfois une inattention de la part des consommateurs. Vous, quand vous voulez acheter un produit, est-ce que vous prenez forcément le temps de regarder ce qui est écrit dessus pour savoir si c'est un vrai ou c'est un faux? Est-ce qu'il vous arrive de marquer ce temps d'arrêt pour regarder?
Non, malheureusement. Je pense que l'inattention des consommateurs, pour moi, c'est une cause qui est très, très faible. Parce que parfois, cette contrefaçon, elle a l'air plus vraie que nature. C'est-à-dire que vous avez des produits de contrefaçon qui, à côté des produits originaux, n'ont aucune véritable différence. En réalité, il faut pointer...
C'est-à-dire la copie est très, ressemble très nettement à l'original.
Très nettement à l'original. Le phénomène qui a eu ces derniers temps, c'est effectivement la contrefaçon des liqueurs. Alors, quand vous prenez, on a pu observer et on a pu découvrir cette semaine à travers un certain nombre de témoignages que la plupart des débits de boissons et des bains de Cameroun distribuaient des produits de contrefaçon.
Peut-être en connaissance de cause parce que ces produits étaient peut-être moins chers que de s'approvisionner aux endroits réguliers, comme les brasseries.
Absolument, parce que en achetant des produits de contrefaçon, des produits qui ont été fabriqués dans des quartiers, dans des usines clandestines, cela revient moins cher et leur permet d'avoir des gains plus importants. Le consommateur, il est difficile pour un consommateur dans un débit de boisson ou alors dans une boîte de nuit de distinguer le bon whisky du faux. Je pense qu'à ce niveau, il y a le laxisme des pouvoirs publics. Parce que, au-delà.
Et peut-être aussi de l'avidité de la part de ces vendeurs, parce qu'il y en a qui ont été saisis effectivement dans des lieux très courus.
Mais le problème, c'est que le phénomène est tellement grave que les saisies spectaculaires de ces derniers temps, si on peut les applaudir, c'est tellement insuffisant parce que le phénomène, il est profond. Ça fait de nombreuses années déjà qu'on dénonce le fait que sur le marché circulent des faux produits. Et c'est tellement grave, Liliane, parce que cela touche à la santé des gens. C'est-à-dire que les gens, au quotidien, dans les bars, dans les boîtes de nuit, s'empoisonnent avec ce qu'ils croient être du whisky de bonne qualité. C'est très grave. Cela demande que les pouvoirs publics prennent des mesures beaucoup plus difficiles, beaucoup plus fermes que ce qu'on a observé ces derniers temps qui donnent l'impression d'être une opération ponctuelle comme ça.
Des coups de poing ponctuels.
On va rentrer dans le train-train quotidien. Pour moi, c'est extrêmement grave parce que cela touche à la santé des gens. Que des gens consomment du poison dans des débits de boissons en croyant avoir acheté du whisky, c'est extrêmement grave et cela demande de prendre des mesures beaucoup plus efficaces que ce qu'on observe ces derniers temps et qui nous semblent être des opérations essentiellement ponctuelles.
Merci Jean-Bruno Tagne. Et je voudrais souligner, je voulais le faire en début d'émission, que nous avons contacté le ministère camerounais du Commerce qui n'a pas souhaité, dit-il, faire une large communication, ce sont les mots de Madame Elemva Amana Barbara, chef de la brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes. Elle a donc déclaré que le ministère ne souhaitait pas faire une large communication sur ce dossier. Je vous propose, messieurs, de revenir dans la suite du débat pour continuer à voir quelles sont les causes de ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années au Cameroun. Je parle de la contrebande et de la contrefaçon naturellement. Et nous allons entendre une fois de plus nos invités.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous débattons ce soir avec nos invités en direct de Douala et de Yaoundé de la contrefaçon et de la contrebande au Cameroun. Ces derniers mois, le ministère du Commerce a procédé à des opérations de descente sur le terrain et a saisi plusieurs produits contrefaits. Et nous avons pour en parler Jean-Marie Mbianda, économiste et spécialiste en accompagnement des PME. Il est en ligne de Douala. Et Jean-Bruno Tagne, qui est journaliste et directeur général adjoint du média en ligne, Naya TV est à Yaoundé. Et nous n'arrivons pas à joindre Delors Magellan Kamse Kamguin, président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs, qui a bel et bien confirmé sa participation à cette émission. Et nous n'avons pas pu également avoir à ce plateau Madame Elemva Amana Barbara du ministère du Commerce que nous avons contacté. Le ministère du Commerce qui a dit ne pas souhaiter faire une large communication sur cette affaire. Je reviens donc à vous, Monsieur Jean-Marie Mbianda. Est-ce que vous partagez le diagnostic fait par Jean-Bruno Tagne qui dit qu'au-delà de l'inattention des consommateurs qui participent peut-être à une faible proportion à cette situation, il y a aussi l'avidité des consommateurs? Mais à côté de cela, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de l'augmentation du chômage qui fait que beaucoup de jeunes Camerounais trouvent dans la contrebande ou la contrefaçon un moyen simplement de gagner leur vie et de s'en sortir?
Bon, il faudrait que Mme Niacha vous indique déjà que ce n'est pas propre au Cameroun seulement, hein, la contrebande. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous créez une union douanière, alors vous créez un marché commun, le rôle de la douane maintenant, c'est de sanctuariser l'espace économique pour pouvoir faire en sorte que les entreprises qui exercent dans cet espace aient en face d'elles un marché captif. Or, sanctuariser cette zone, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux produits qui rentrent de façon illicite qu'on devrait considérer donc comme des ennemis de cet espace économique-là. Parce qu'en fait, si on les déverse, je vous prends un exemple simple. Boudam Garam, en Indonésie, fabrique les bûchettes d'allumettes. Pour les bûchettes à 25 francs, elle les déverse ici au port de Douala. L'entreprise qui est ici au Cameroun, qui prend la matière première au Cameroun, le phosphore, le bois, fabrique la même boîte et ne peut pas vendre à moins de 25 francs, sinon elle va perdre. Vous croyez que cette entreprise camerounaise peut véritablement compétir avec ces produits importés?
Excusez-moi, monsieur Mbiel, est-ce qu'on peut revenir au débat? Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas un phénomène propre au Cameroun. La preuve, on parle même déjà de faux vaccins anti-Covid. Voilà. Est-ce que, moi, ma question était de savoir, on essaye de comprendre pourquoi il y a cette situation particulièrement grave au Cameroun. On a vu l'ampleur des saisies opérées ces dernières semaines. Quand je parlais du problème de chômage ou de la pauvreté, le taux de chômage estimé en 2019 était quand même de 10% de la population jeune au Cameroun, selon des universitaires camerounais. Est-ce que cela ne participe pas aussi, ne pourrait pas aussi être un élément qui entraîne cette situation?
La contrebande, si je parle d'elle généralement, c'est les opérateurs économiques qui s'y livrent. Donc le jeune, excluons-le d'office.
Mais il y a aussi des jeunes qui, dans des quartiers, utilisent leurs moyens propres pour fabriquer des jus ou prétendre proposer de l'eau minérale avec des bouteilles recyclées de vraies eaux minérales.
Oui, là on est dans la contrefaçon. Je voulais y aller, puisqu'on évolue avec deux concepts différents, la contrebande et la contrefaçon. Donc je réitère dans ce que j'ai dit, je le maintiens. La contrefaçon, par contre, tel que vous le dites, oui, généralement c'est opéré en interne, c'est opéré sur les forces économiques. Et c'est un problème multifactoriel. Tel que vous le dites, le chômage peut amener un jeune qui a par exemple fait 2, 3, 4, 5 concours sans suite. Et quand il se rend compte qu'il est à 35, quand il regarde devant lui, il n'y a aucune perspective, il peut être donc porté à se livrer à certaines pratiques répréhensibles du point de vue de la loi. Vous avez parlé de l'eau, par exemple, pour exploiter, capter l'eau minérale et vendre, il vous faut un agrément. Donc lui, il se passe l'agrément, il n'a pas fait une formation en bonne pratique d'hygiène, il n'a pas fait une formation en bon procédé de fabrication. Résultat de course, il est en train de conditionner à petite dose de 20 centilitres, 35 centilitres ou 40 centilitres de petites substances mortifères qu'il distribue à la population. Et là, c'est une responsabilité partagée, c'est-à-dire c'est l'État qui devrait donc le bloquer. Or, notre État également a le principal inconvénient de ne pas avoir assez de moyens pour recruter, ou alors, quand même il a recruté, il ne distribue pas à travers le pays de façon équitable les effectifs. Je vous prends un exemple. Vous êtes dans la ville de Douala, vous allez à la délégation régionale du ministère du Tourisme et des Loisirs. Vous voyez 15 personnes là-dedans. Mais la simple ville de Douala, ces 15 personnes ne peuvent pas contrôler seulement les cabarets parce que c'est de leur responsabilité. Les lieux de loisirs, les parcs de tourisme, tout ça, c'est tellement énorme que ces 10 ou 15 personnes ne peuvent rien faire. Or, nous n'avons parlé que de Douala. Ils concentrent à se tenir sur leur responsabilité. EDEA, c'est surtout sur leur responsabilité. Quand je parle d'EDEA, je veux parler du département de la Salaga Maritime. Donc, résultat de course, on est en face d'une situation où l'État est débordé. L'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire véritablement le gendarme sur son espace économique et contrer donc depuis le laboratoire la sortie de ces produits qu'on appelle abusivement le vin, le grand vin, le grand whisky ou bien de l'eau minérale, de l'eau gazeuse pour pouvoir le passer sur le marché camerounais. Malheureusement, voilà la réalité.
Merci, M. Mbianda. Alors, Jean-Bruno Tagne, manque de moyens de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des pertes qu'on a estimées, quand même 250 milliards annuels, l'État n'est pas un peu obligé, même s'il n'a pas les moyens, de s'intéresser davantage à cette question pour éviter ces pertes quand même colossales?
Alors, il ne faut pas qu'on soit tout le temps en train de trouver des excuses à l'État. c'est quand même quelque chose qui, non seulement sur le plan économique, constitue un manque à gagner considérable pour l'État, mais également, il y a ce qui me semble le plus important, c'est-à-dire la santé publique, la santé des consommateurs.
Et peut-être aussi la menace même de la survie, la menace même des entreprises régulièrement constituées.
Absolument.
Et qui produisent ces mêmes produits qui se retrouvent finalement sur le marché, le réseau de la contrebande.
Absolument. Et on ne doit pas trouver des excuses à l'État. Si l'État n'a pas les moyens, il doit se trouver des moyens pour réaliser, pour faire son travail, c'est-à-dire permettre que les consommateurs puissent avoir accès à des produits qui soient sains. Parce que ce dont on parle, c'est quand même quelque chose qui touche à la santé des gens et on ne peut pas s'amuser avec cela. On doit trouver des moyens pour pouvoir combattre. L'une des choses, je parlais du laxisme des pouvoirs publics ces temps-ci, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que quand bien même on a identifié des débits de boissons ou alors des établissements où on distribue ces produits de contrefaçon, les sanctions sont parfois un peu trop timides. On ne va pas jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout et cela n'est pas de nature à amener les autres à se décourager, à ne pas pouvoir recommencer la même chose la première fois. Il faut que des sanctions exemplaires soient prises, qu'il y ait une enquête, une opération coup de poing qui s'étend sur la durée pour essayer d'identifier. Parce que toutes les usines de contrefaçon des boissons alcoolisées ou alors des boissons gazeuses et tout, c'est quand même dans des quartiers. Donc il suffit simplement d'un tout petit effort pour identifier les endroits où on les fait. C'est pas quand même sur Mars qu'on va fabriquer ces produits-là. C'est dans les quartiers, les populations sont au courant de ce qui se passe.
Donc, Jean-Bruno Tagne, pour vous, il y a un vrai laxisme,
il y a un laxisme
des autorités. Et puis, certains parlaient aussi de soupçons de corruption, parce que pour ce qui est du whisky, par exemple, ce sont parfois de gros importateurs qui opèrent dans ce secteur. Et parfois, il y en a qui ne s'approvisionnent pas là où il faut et qui se livreraient aussi à cette contrebande.
Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez du chômage qui peut motiver les gens à se livrer à ce type d'activité. Ce n'est pas des jeunes gens qui se livrent à ce genre d'activité, parce qu'il y a un investissement qui est considérable pour pouvoir installer une usine pour fabriquer du faux whisky ou alors pour embouteiller de l'eau de mauvaise qualité. Non, ce n'est pas une affaire de jeunes. C'est des gens qui ont déjà une assise financière considérable et qui se à ce genre de pratique pour à cause de la du gain. Voilà, donc ce n'est pas forcément le chômage qui justifie ce genre de choses, c'est l'appât du gain. Il y a également la corruption, parce que on a souvent vu, moi j'ai mené des enquêtes là-dessus, j'ai réalisé des reportages là-dessus, où des entreprises ou alors des zones d'affaires sont identifiées pour se livrer à de la contrebande. Et quelques temps plus tard, ils continuent à faire exactement la même chose. Parce que soit on a sous-doyé un fonctionnaire à tel endroit, il y a également que les associations de consommateurs, pardon de le dire, mais ne sont pas assez efficaces. Il n'y a
Merci.
Pas une véritable puissance de...
Je suis désolé. Vraiment désolé, la ligne n'est pas claire avec vous, Bruno Tagne à Yaoundé. On espère qu'elle va s'améliorer. Monsieur Jean-Marie Mbianda, quand on vous écoute, vous dites que l'État fait des efforts, même avec des moyens insuffisants. Vous évoquiez tout à l'heure la mise en place de cette brigade dite Alcomi, halte au commerce illicite. Ça fait partie des moyens que l'État essaye de déployer pour lutter contre ce phénomène. Quel en est le bilan? Est-ce que, à part des descentes inopinées sur le terrain pour contrôler et saisir les marchandises, il y a un bilan réel à mettre à l'actif de cette Alcomi?
Oui, Madame Yatia. Est-ce que vous savez que en 2012, lorsque il s'appelait Bernard Djonga, d'heureuse mémoire, avait engagé une lutte avec les pouvoirs publics pour donner la possibilité aux petits producteurs locaux de pouvoir exercer, de pouvoir faire leur activité qui consiste à élever et puis proposer au marché camerounais des poulets de chair et les œufs. L'État a donc dit vas-y Et lorsqu'on a donc bloqué la frontière, on s'est rendu compte que rien n'entrait plus dans le pays en termes de découpe de volailles. Donc l'IPAVI qui avait été mis en place, l'interprofession avicole qui avait été mise en place, a permis de renflouer le marché camerounais en une enveloppe d'eau qui tournait déjà autour de 2000 francs, madame, était tombée pratiquement à 800 francs. Donc voilà quelque chose de concret qu'on peut mettre à l'actif de cette brigade. Et cette brigade, quand elle est née, maintenant, on se rend donc compte que quand du côté de Douala, c'est très serré, des gens faisaient donc venir des découpes de volailles qu'on déversait au sud de la frontière du Cameroun, mais citons les noms également, ça partait de la Guinée équatoriale pour rentrer. Et Alcomi a été impitoyable à ce niveau. Une fois que cela a été saisi, à un moment, les gens faisaient même venir des hauts gradés de l'armée pour transporter leur cargaison. Alcomi était implacable là-dessus. Une fois que c'était saisi, le gouverneur venait, on versait les sangs dessus, on brûlait. Donc vous imaginez que vous mettez 40 millions pour faire entrer une cargaison, on brûle devant vous.
Mais qu'est-ce qui s'est donc passé si cette lutte-là, ce dispositif-là fonctionnait, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on se retrouve avec des tonnes de produits de contrebande sur le marché et d'importants réseaux de fabrication de produits contrefaits aussi?
Non, non, Alcomi, sa responsabilité ne va pas dans la détection des produits de contrefaçon. C'est-à-dire quand un Camerounais installe derrière sa maison une petite boutique pour faire sans publicité le runard.
D'accord. Pour ce qui est donc de la contrebande, pourquoi ce dispositif semble donc ne plus fonctionner devant la situation à laquelle on assiste aujourd'hui?
Non, non, ce dispositif fonctionne, Madame Yatcha, ce dispositif fonctionne, mais il ne peut pas être parfait, je l'avoue. C'est-à-dire quand on dit un manque à gagner de 100 milliards, ça veut dire que si le dispositif n'était pas là, on en serait peut-être à 600, 700 milliards. Donc, le temps que les responsables...
Mais vous dites que ça fonctionne en décembre 2020, par exemple, M. Bianda, la douane a saisi 13 tonnes quand même de produits contrefaits, je crois, à Douala, et des produits pharmaceutiques, des cartons de cigarettes. Ce dispositif-là, donc, est-ce qu'il est vraiment reparti sur l'ensemble du territoire pour contrôler l'accès aux produits de contrebande?
En tout cas, c'est ça dans le problème, c'est-à-dire, vous savez, dans le pays, vous avez les corridors douaniers, comme ça, si ça part de Douala, ça va à Daroboula, à la frontière pour aller en Centrafrique, ça part de Douala, ça va jusqu'à Touboro, pour aller au sud du Tchad, et ça peut également aller au nord, jusqu'à l'extrême nord, notamment à Koussouri, au niveau de Ngueli. Voilà, donc, on appelle ça le corridor douanier. Donc, généralement, cette alchimie s'installe uniquement sur ce corridor-là. Or, le monsieur qui fait entrer sa marchandise de contrebande ici, du côté de Ekok,
nous sommes dans au Nigeria, dans le sud-ouest.
Tout à fait. Un autre qui fait entrer sa marchandise de contrebande au niveau de Missagé. Alcomi ne sera malheureusement pas présent là-bas. Un troisième qui peut faire entrer également du côté de la capitale de l'État de l'Adamawa au Nigeria, Yola. Quand il fait rentrer sa cargaison par là, Alcomi est rester uniquement...
Donc c'est l'État un peu qui a mal organisé le dispositif, alors.
C'est une affaire d'effectifs, Madame Yatia. C'est une affaire d'effectifs. Donc si l'État a assez d'effectifs maintenant, il va donc déployer à ces endroits que je suis en train d'indiquer. Ou à tout moment, il y avait mes effectifs là-bas, mais n'étant pas dans... Je vous prends un exemple, j'ai fait un travail pour...
Monsieur Bianda, on va écouter travail dans un instant, le temps de marquer une toute petite pause, et nous allons en même temps aborder la question des solutions pour faire face justement à cette contrebande et à cette contrefaçon qui expose la santé des Camerounais et aussi porte un préjudice important à l'économie camerounaise.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dernière phase de notre émission de ce soir sur la contrebande et la contrefaçon au Cameroun avec nos invités Jean-Bruno Tagne, journaliste et directeur général adjoint du média en ligne Naya TV à Yaoundé, Jean-Marie Bianda, économiste spécialiste en accompagnement des PME, expert certifié ONUSI en diagnostic et mise à niveau des industries à Douala. Et nous allons vous redonner quelques instants encore la parole, Jean-Marie Bianda, avant de parler des solutions. Très brièvement, vous nous disiez que vous avez travaillé sur la contrebande et partagez avec nous ce que vous avez découvert.
Alors, Liliane, c'est qu'il y a des opérateurs économiques qui arrivent à la frontière
et veulent entrer, et vous vous rendez donc compte qu'ils ne peuvent pas entrer parce qu'il n'y avait pas de courant. Et la Banque mondiale avait donc donné la possibilité d'acheter des groupes électrogènes, des dispositifs de production d'énergie photovoltaïque ou entourer tous les bureaux de douane à la frontière avec la République centrafricaine, avec le Tchad. Et résultat de course, vous voyez que même la corruption qui se développe de ce côté n'avait plus besoin de l'aide. Donc tous les produits qui arrivaient pouvaient entrer. Faites l'hypothèse donc vous venez avec votre marchandise. La douane ne peut pas vous servir parce qu'il n'y a pas l'électricité. Vous devez faire un, deux. Quand vous avez loué un camion, 10 millions par jour, faites un exemple comme celui-là. Donc un jour de plus, ça fait 20 millions, 30 millions. Ça fait même en sorte que la marchandise que vous avez ne peut plus vous rapporter de l'argent pour combler les pertes que vous êtes en train de subir. Vous pourrez être tenté donc de passer par une voie de contrebande. Donc pour résoudre cela, on a donc été obligé de doter donc tous ces postes. D'abord de l'énergie régulière, deuxièmement, le groupe électrogène doté d'un inverseur automatique qui pouvait donc déclencher chaque fois que l'opérateur, le fournisseur d'énergie disparaissait. Lorsqu'il revenait, le groupe s'arrêtait. Et puis, un système de production d'énergie à partir des plaques photovoltaïques qui ont été apposées là-bas.
Merci.
À chaque fois que les marchandises arrivent donc là-bas, tout le monde passe. On n'a plus besoin d'envisager la voie de contrebande pour contourner les postes de douane.
Et l'autre mesure aussi, Jean-Marie Mbianda, vraiment en quelques mots, pour lutter cette fois contre la contrefaçon, le gouvernement s'était doté, on se rappelle en 2014, d'un texte qui rendait alors obligatoire l'application de la norme sur les boissons spiritueuses. Près de 6 ans après, où est-ce qu'on en est concernant ce dispositif?
Bon, Madame Nathia, ça n'a pas beaucoup avancé parce qu'en fait, le gouvernement avait pris la décision et il n'y avait pas une solution de rechange. Quand on vous demande à un monsieur qui produit du whisky de le faire dans un papier de moins de 6 microns et en face, vous avez des producteurs qui ne peuvent pas vous offrir cette solution-là, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer de proposer cela. Les emballages d'épaisseur moins de 6 microns qui avaient été interdits sur le marché, on a saisi, il faut proposer la nature horreur du vide. Donc l'État n'a pas proposé une solution alternative, c'est la raison pour laquelle vous revoyez toujours ces mêmes emballages de moins de 6 microns d'épaisseur sur le marché.
C'est
parce que l'État n'a pas proposé en contrepartie autre chose, et une technologie n'est non plus née entre temps, et les opérateurs du secteur n'ont plus fait d'efforts pour produire cela, parce que l'État ne les y a pas encouragés.
Jean-Bruno Tagne, on semble réaliser que, voilà, le problème c'est l'État lui-même. On me fait signe que pour l'instant, on a perdu Jean-Bruno Tagne, que Edouard Ning, qui assure sur la production de cette émission, va tenter de recontacter pour participer à la dernière partie consacrée aux solutions de ce problème. Alors, Monsieur Mbianda, je vais donc rester avec vous, puisque dès lors, Magellan, comme ceux de consommateurs, n'est pas avec nous, ni le ministère du Commerce, qui a décliné notre invitation. L'État semble donc responsable de cette explosion de cette pratique de contrefaçon et de contrebande, si je m'en tiens à vos explications.
Non, je ne veux pas dire que c'est l'État.
Oui, mais quand vous parlez de l'insuffisance de personnel, d'effectifs pour le dispositif Alchemy qui semblait marcher et porter de ses fruits, vous venez de dire que le dispositif rendant obligatoire l'application de la norme sur les boissons spiritueuses a carrément été oublié. Finalement, qui est responsable de cette situation? C'est bien l'État.
Non, Madame Diatia, sur le marché, quand vous parlez des acteurs d'un marché en économie, il n'y a pas que l'État. Il y a les producteurs, il y a les consommateurs, j'insiste encore.
Bon, on va dire la plus grosse responsabilité, alors.
Les consommateurs sous-éduqués, ça donne donc ce résultat. Certains opérateurs avisent, ça donne également ce résultat. La population en général maintenant, même si elle n'est pas consommatrice, et c'est là où je voulais en venir, Madame Diatia, je mets le curseur là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, les parents, nous allons continuer à faire de faux actes à nos enfants? Nous sommes surpris de ce que nos enfants sont devenus. Nous avons d'abord une part de responsabilité. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un va sur le marché, une paire de chaussures qui coûte 10 000 francs? C'est un exemple. On la lui vend à 1 000 francs, il achète et il est même content de l'avoir acheté. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne touche que 30 000 par mois, Madame Yacha, va en boîte de nuit et veut boire une boisson dont 65 centilitres coûte moins 100 000? Donc, je crois que nous allons aller dans le sens de proposer également des solutions.
Merci.
Donc,
oui.
En effet, donc,
prends les fesses pour moi.
Le temps est en train de s'égrener, monsieur Biana. On me fait signe qu'on a retrouvé Jean-Bruno Tagne. Alors, Jean-Bruno Tagne, droit au but, les solutions, c'est quoi face à ce constat selon lequel l'État semble lui-même un peu désarmé devant ce phénomène de contrebande de contrefaçon?
Oui, il faut commencer par reconnaître que la première responsabilité, c'est celle de l'État. Donc, que l'État prenne ses responsabilités parce que ceux qui gouvernent ce pays ont prêté serment de veiller à la sécurité des Camerounais, de veiller à ce que les consommateurs consomment des produits qui soient sains, qui soient de bonne qualité, dont ils doivent faire leur boulot. Quelles que soient les difficultés, ils doivent se donner les moyens de pouvoir réussir leur mission. Voilà. Et l'autre chose, c'est les associations de consommateurs. Les associations de consommateurs, malheureusement, au Cameroun, sont dans une espèce de connivence avec les États qui fait que, en général, on pousse le pauvre consommateur que nous sommes à dire, bon, voilà, oui, le problème, ce sont les consommateurs, ils ne savent pas distinguer les bons produits des faux. Non, mais attendez, depuis que cette histoire de fausses boissons gazeuses et tout a explosé, aucune association de consommateurs n'a organisé ne serait-ce qu'une activité pour expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'ils doivent pouvoir distinguer le bon whisky du faux. Voilà, donc je pense que les associations de consommateurs...
Et sur la responsabilité individuelle dont parlait M. Biada, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi quelque chose à faire? Parce qu'après tout, ce sont les consommateurs qui en payent le prix, leur santé est mise en jeu.
Absolument, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui sont chargés de préserver la santé des Camerounais, ils doivent faire leur boulot. Après, maintenant, il y a également les responsabilités individuelles. Mais là, vous savez, l'homme n'est pas par nature vertueux, et c'est pour ça que les lois existent. Il faudrait que des sanctions soient exemplaires pour décourager tous ceux qui voudraient s'engager dans ce chemin-là.
On durcisse les lois.
On durcisse les lois. On a organisé des opérations coup de poing qui ont permis de démanteler des usines de fabrication de faux whisky et tout. Mais après, il faudrait également qu'on sanctionne de manière exemplaire les bars, les débits de boissons, ainsi de suite, qui achètent ces produits de contrefaçon. Si en une seule semaine, on ferme au moins 100 débits de boissons, 40 boîtes de nuit rien que dans la ville de Yaoundé, je pense que beaucoup de propriétaires de ces espaces-là vont...
Mais si on ferme Jean-Bruno Tagne et après, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, il y aura la tentation pour ces bars de revenir à leurs pratiques précédentes.
Évidemment, il est question de fermer et de procéder à un suivi. On ne va pas simplement se contenter de fermer, je suis absolument d'accord avec vous. Donc je pense qu'il faut que des mesures soient prises. Il faudrait qu'on fasse preuve de beaucoup plus de fermeté que ce qu'on est en train d'observer en ce moment. Parce qu'il y a d'un côté la santé des Camerounais qu'il faut préserver, mais également il y a les contre-coups de cette contrefaçon sur les entreprises locales. Et je suis même surpris également, jusqu'à présent, on n'a pas entendu les entreprises qui sont victimes de cette contrefaçon et de cette contrebande également depuis que cette opération coup de poing menée par le ministère des Transports, le ministère du Commerce a commencé. Donc je pense que il y a quand même quelque chose à faire pour que les gens se rendent bien compte que on ne peut pas s'amuser avec ce qui entre en droit digne de la santé des populations. C'est essentiel. Et les associations de consommateurs, pour une fois, doivent pouvoir faire leur boulot.
C'est-à-dire merci beaucoup. En tout cas, nous avons invité
à des explications au gouvernement.
En tout cas, nous avons bien invité un président de l'association de consommateurs qui est resté injoignable quelques instants avant l'émission. Alors, monsieur Biada, vraiment, 30 secondes, renforcer les moyens de l'État et faire un suivi sur la durée.
Tout à fait, madame Yatia. Densifier, massifier les équipes alcoolisées et les démultiplier sur le terrain, on va bien lutter contre la contrebande. Et quand on vient au niveau de la contrefaçon maintenant, je crois durcir même la sanction, c'est-à-dire faire en sorte que le promoteur, le monsieur qu'on a surpris en train de trafiquer des poissons qui donnent certaines maladies auxquelles on n'était pas habitué, madame Yatia, les insuffisances rénales. Mais on n'en parlait pratiquement pas. C'est davantage ce que nous vivons cette fois parce que tous ces produits de mauvaise
qualité
sont en train de piller sur le terrain. Mais je peux nuancer en donnant quelque chose de bien. Il y a une eau minérale que j'ai consommée il y a 5 ans. J'ai dénoncé sa fatigue. J'ai été très content hier de constater que le ministre de l'Industrie et des Mines du Développement Technologique a interdit la consommation et la vente de cette eau.
Merci beaucoup Jean-Marie Mbianda, économiste spécialiste en accompagnement des PME et expert certifié UNIDI en diagnostic et mise à niveau des industries à Douala. Merci à vous Jean-Bruno Tagne, journaliste et directeur général adjoint du Média en ligne Naya TV à Yaoundé. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end.